Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux musiciens qui nous ont encore conduits dans notre louange au Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre notre étude que nous avions interrompue la semaine dernière chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Nous avions vu les semaines précédentes que le Seigneur avait donné tous les dons de l'Esprit à ses Corinthiens et qu'il ne leur manquait aucun don. Au chapitre 1 de cet épître, au verset 7, il est effectivement écrit « Ainsi, il ne vous manque aucun don ». Mais que, on avait vu également, par ce chapitre 13, l'apôtre Paul insiste sur le fait que posséder un don, ou posséder tous les dons, n'est pas le plus important pour une église, mais que le plus important, c'est d'avoir l'amour. Il insiste même sur le fait que tous les dons du monde ne leur serviraient à rien s'ils n'ont pas l'amour. Et à partir du verset 4 de ce 13e chapitre, Paul commence à décrire comment est cet amour en le personnifiant, en lui donnant des attributs moraux, un peu comme si l'amour était une personne. Nous avons vu dans les semaines précédentes, notamment, plusieurs de ses attributs, que l'amour est patient. Et nous avons également vu que l'amour n'est pas égoïste. Et cette semaine, nous allons voir que l'amour se réjouit dans la vérité. Je vais prendre notre texte. Voilà, l'amour se réjouit de la vérité. Donc, je prends notre texte, c'est juste quelques versets. À partir du verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Paul écrit cette lettre aux Corinthiens parce qu'il a entendu dire qu'il y avait des problèmes dans cette église, et même de graves problèmes. Lorsque Paul dit que l'amour se réjouit de la vérité, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Si ce chapitre est une réprimande aux Corinthiens et une exhortation à rechercher l'amour, on voit que le chapitre 14, qui vient juste après, commence par les mots « rechercher l'amour » et que l'amour se réjouit de la vérité, alors on peut se poser la question « en quoi est-ce que les Corinthiens ne se réjouissent pas de la vérité ? » Est-ce que Paul emploie ce mot de vérité dans son sens général ? La vérité en tant que concept, dans le sens « l'amour dit toujours la vérité et ne ment jamais » voulant ainsi encourager les Corinthiens en leur disant « il faut que vous disiez la vérité les uns aux autres et que vous arrêtiez de mentir » Est-ce que Paul ici est en train de pointer du doigt le fait que les Corinthiens sont des menteurs ? Ou alors, est-ce qu'il parle d'une vérité en particulier? Une vérité qui s'opposerait à l'injustice et à laquelle les Corinthiens ne parviennent pas à se réjouir? Je pense effectivement que c'est plutôt le second cas. Je pense qu'ici, Paul est en train de parler de la vérité de l'Écriture. Dans l'Épître aux Romains, d'ailleurs une épître qu'il a rédigée lorsqu'il était à Corinthe, Paul dit au chapitre 2, verset 8, que Dieu réserve sa colère à ceux qui rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Ce matin, nous allons donc essayer de voir quelle est cette vérité de l'Écriture, avec ses différents aspects, de laquelle l'amour se réjouit et à laquelle les Corinthiens sont appelés à se réjouir et nous aussi sommes appelés à nous réjouir. Nous allons voir trois points. Non, c'est mauvais sens. Nous allons voir dans un premier point que nous allons voir la vérité de Dieu dans la règle qu'il donne. Ensuite, nous verrons la vérité de Dieu. Comment passer de la vérité de la loi de Dieu à celle de l'Évangile. Et enfin, nous verrons comment nous approprier de la vérité de l'Évangile. À travers sa parole, notre Créateur nous donne des règles qui encadrent à la fois ce qui est utile à notre bon fonctionnement et ce que nous devrions éviter pour conserver ce bon fonctionnement. Et parfois, ça va être dur de se réjouir de la vérité de la Bible, car elle ne nous convient pas. En particulier, la vérité de la Bible ne convient pas aux non-croyants qui veulent être libres et qui remplacent la vérité de la Bible par le mensonge, la malhonnêteté et l'injustice. Recherchant ainsi leur bonheur dans l'absence de règles et de toute contrainte, ce qui conduit inévitablement au dérèglement. L'homme naturel veut vivre indépendamment de la vérité de la loi de Dieu et s'irrite lorsque la vérité vient contredire sa façon de vivre et sa volonté propre. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 7, Paul dit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » La personne qui ne connaît pas Dieu ne peut donc pas se réjouir de la vérité objective, immuable de Dieu et va s'attacher à sa propre vérité subjective. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul nous dit en quelque sorte que la présence de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient à travers ce qu'il a fait. Mais que, bien que visible, sa puissance, sa divinité, l'homme, par malhonnêteté et par orgueil, choisit de remplacer la gloire de Dieu par toutes sortes d'idoles. Cet homme naturel, déchu, ne se réjouit donc pas de la vérité de la gloire de Dieu et de l'ordre qu'il a voulu pour le monde. Cependant, ici, Paul, dans cet épître aux Corinthiens, n'est pas en train de s'adresser à des non-croyants, mais à des croyants. Et c'est vrai, mais au début du chapitre 3, Paul dit qu'il ne peut pas leur parler comme à des gens dirigés par l'Esprit, qu'il leur parle comme à de petits enfants en Christ, dirigés par leur nature propre. Paul va effectivement constater de sévères dérèglements dans cette église de Corinthe, des comportements qui sont similaires à ceux qu'on peut observer dans le monde. Il va observer des disputes, des divisions, des rivalités. Mais il va même observer au chapitre 5, il nous dit cela, hein, qu'il va observer une immoralité sexuelle telle qu'on n'en parle même pas chez les non-croyants. Bien qu'ils sont enfants de Dieu, et que Paul n'hésite pas une seule seconde à les appeler ses frères et sœurs, certains d'entre eux, certains de ces Corinthiens, échouent à se réjouir de la vérité de la règle de Dieu, de ses commandements, et préfèrent vivre dans le dérèglement, comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Voici donc un premier sens dans lequel les Corinthiens, tels des non-croyants, ne se réjouissent pas de la vérité de l'Écriture dans la règle, et plutôt que de rendre gloire à leur Créateur, préfèrent rejeter la loi, commettre toutes sortes d'injustices et faire toutes sortes de choses malhonnêtes. Mais nous voyons aussi dans ce chapitre 5 que ceux qui ne vivent pas dans un tel dérèglement échouent également à se réjouir de la vérité. Paul leur dit, donc à ceux qui ne vivent pas dans le dérèglement, qu'ils n'ont vraiment pas de quoi être fiers. Et pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Parce que par souci de plaire à tout le monde, aucune action n'avait été prise à l'égard de cette personne qui avait couché avec la femme de son père et qui ainsi, eux, ceux qui n'avaient pas confronté, avaient tenu la vérité captive. Ainsi, les Corinthiens qui ne vivaient pas dans le dérèglement échouaient de se réjouir de la vérité de Dieu, non pas parce qu'ils vivaient eux aussi dans le dérèglement, mais parce qu'ils ne défendaient pas la règle. Parfois, la vérité n'est pas facile à dire. Et lorsque nous nous trouverons dans une situation où la vérité de la règle de Dieu devra être dite, je prie notre Seigneur qu'il nous remplisse d'amour et qu'il nous donne de dire la vérité par amour pour l'autre, par intérêt pour l'autre. Si, en général, nous sommes pressés de dire la vérité à quelqu'un, c'est probablement que notre motivation, ce n'est pas l'amour, mais plutôt quelque intérêt personnel. Ce n'est peut-être pas que nous voulons dire la vérité de Dieu à quelqu'un, mais peut-être plutôt que nous voulons lui dire ses quatre vérités. Mais comme le disait le pasteur Vincent il y a 2 semaines, l'amour ne fait jamais rien dans son propre intérêt. Ou comme nous le disait le pasteur Samuel il y a 3 semaines, l'amour est patient. L'amour contient toutes ses caractéristiques. Il est patient, il n'est pas orgueilleux. L'amour vit dans la vérité, mais toutes ces caractéristiques doivent marcher ensemble et ne doivent pas être prises indépendamment les unes des autres. Et dans ces situations où nous serons pressés de dire la vérité, probablement pas par amour pour la personne, mais peut-être pour la blesser, nous devrons peut-être plutôt nous retenir et nous souvenir que l'amour supporte tout. Ceci dit, il y aura bel et bien des situations où par amour, nous devrons dire la vérité, car il n'y a pas d'amour véritable sans vérité. Et bien souvent, dans ces situations, nous aurons peur de dire la vérité, justement car nous aimons la personne. Nous aurons peur de dire la vérité, car nous aurons peur de blesser la personne. Et ma prière dans ces situations, c'est que le Seigneur nous donne la force et le courage de nous réjouir de la vérité que nous dirons, si nous sommes celui qui dit la vérité. Mais également que le Seigneur nous donne la force et le courage de nous réjouir de la vérité que nous entendrons, si nous sommes celui à qui la vérité est dite. Maintenant, et de manière plus globale, lorsque nous voudrons, en tant qu'enfants de Dieu, déclarer la vérité de la règle de Dieu, afin que les gens puissent vivre de manière qui glorifie Dieu, lorsque nous voudrons déclarer cela au monde, et même si nous le faisons par amour pour les gens, le monde ne sera pas content. Alors la question pour nous qui croyons est, allons-nous trouver non seulement l'amour et la force de dire la vérité au monde, malgré l'opposition, la moquerie, les insultes, peut-être parfois les menaces, mais allons-nous aussi nous en réjouir? Allons-nous aussi le faire avec joie? L'amour se réjouit de la vérité. Et lorsque la vérité est proclamée au monde, nous devons nous en réjouir. Dans l'actualité récente, j'ai été marqué par une personne qui n'a pas eu peur de dire la vérité malgré l'opposition et les insultes. Cette personne, c'est le pape. Il y a quelques semaines, il accueillait une délégation de la communauté LGBT au Vatican et plutôt que de faire des compromis en allant dans le sens de ces personnes qu'il accueillait, eh bien il a tenu ferme et il leur a dit la vérité quant au mariage. Que le mariage ne peut être qu'entre un homme et une femme, que le mariage homosexuel n'est pas quelque chose de possible. Non pas parce que c'est son avis personnel à lui, sa vérité subjective, mais parce que c'est la vérité objective de Dieu, écrite. Il y a une vidéo sur YouTube intitulée « La communauté LGBT explose ». Et sur la vidéo, il est marqué « Scandale mondial ». Parfois, dire la vérité de Dieu peut sembler être un manque d'amour. Comme nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, il est vrai que la personne humaine qui dit la vérité peut avoir de mauvaises intentions. Il est vrai que malheureusement, la vérité de Dieu peut être instrumentalisée par l'homme pécheur, non pas pour construire l'amour, mais pour briser l'amour. Mais la vérité en elle-même n'est jamais mauvaise. Dans son discours, le pape disait, en parlant du mariage, je sais bien que cette affirmation suscite débat, colère et critique dans les églises et sur les écrans du monde entier. Mais je ne le dis pas pour blesser, mais pour guérir. Non pas pour exclure, mais pour éclairer. Non pas pour détruire, mais pour construire sur la vérité qui nous a été révélée depuis la création. Il dit ensuite que ce commandement n'est pas un commandement arbitraire, mais la proclamation d'une vérité éternelle. Lorsque nous proclamerons la vérité, non pour condamner, mais pour libérer. Il ne faudra surtout pas s'étonner de l'opposition, car le monde qui n'a pas connu Dieu s'oppose à la vérité de Dieu. Souvenons-nous des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où il dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Car la vérité, lorsqu'elle est entendue et reçue avec joie, aura pour effet d'éclairer et de commencer dans les cœurs brisés une profonde guérison. Cette vérité de la règle, de la loi de Dieu, lorsqu'elle sera accueillie avec honnêteté et avec un cœur sincère, aura pour effet premier chez la personne de la convaincre au plus profond de son cœur que cette loi, cette règle est bel et bien la vérité. Mais le deuxième effet de cette règle, c'est qu'elle nous montre quels sont les standards de Dieu pour être trouvé juste devant lui. Cette vérité de la règle nous montre que nous sommes tous pécheurs et sans aucun espoir. Cette vérité de la règle nous montre que personne ne peut être trouvé juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi. Les pharisiens, c'est-à-dire un groupe religieux qui vivait au temps de Jésus et avant, voulaient être trouvés juste devant Dieu de par leur respect de la loi. Or, cette loi, dans l'Ancien Testament, contient quelque 613 commandements et personne ne pouvait les respecter parfaitement. Du coup, les spécialistes religieux juifs inventaient tout un tas de traditions pour cacher certains aspects de la loi de Dieu, des aspects de la vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Car ces aspects-là les déclaraient coupables et leur montraient leur péché. Lorsque nous contemplons, nous aussi, avec honnêteté, la loi de Dieu, nous comprenons non seulement qu'elle est juste et vraie, mais nous comprenons également que nous ne sommes pas à la hauteur de ses exigences. La vérité est folie. L'évangile de Christ est folie pour le sage de ce monde. On peut imaginer que si Alice essaie de rationaliser ce qu'est en train de lui dire le lapin, jamais elle ne pourra le croire. Jamais elle ne fera le pas de foi de sauter dans le trou. Mais l'apôtre Paul continue en disant que la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il dit même que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La foi chrétienne est loin d'être dépourvue de sens, de logique et de raison. Le groupe de jeunes, d'ailleurs, pendant ce week-end où ils vont partir, va étudier de bonnes raisons pour croire. Mais vous voyez, ce n'est pas par la raison humaine que le non-chrétien naît de nouveau. Ce n'est pas par la raison humaine que le non-chrétien vient à vivre et à se réjouir de la vérité de l'Évangile. Mais c'est toujours par la foi. Et cette foi par laquelle le non-chrétien vient à connaître personnellement Dieu, c'est à la fois le choix de la personne de croire et de s'approprier la sagesse de Dieu, de l'évangile de Christ, mais c'est également une capitulation de la personne qui arrête de se battre et de repousser l'appel du Seigneur qui l'attire à lui par sa sagesse. Cet évangile, cette vérité de Dieu est le message par lequel Christ va sauver le non-croyant. Par la foi. Mais c'est également par ce message que Jésus-Christ va garder le chrétien. Parfois, en tant que chrétien, nous échouons nous aussi à nous réjouir de la vérité de l'Évangile. Parce que nous avons tendance à oublier ce qu'elle implique. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 16 et 17, Paul dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Paul dit que cet Évangile est en quelque sorte le moteur, la puissance de Dieu non seulement pour amener à la foi et à la repentance, mais également pour garder proche de lui celui qui croit. Le conduire à son but final, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire la résurrection. Il y a un quatrième aspect à la vérité de l'Évangile dont je n'ai pas trop parlé. C'est la résurrection. Non seulement Christ est mort, comme nous l'avons dit, pour notre justification, pour que nous ne soyons plus trouvés coupables devant Dieu, mais au contraire, que nous devenions enfants de Dieu. Mais il est également ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie. Et qu'aujourd'hui même, en ce moment même, il vit et il prie pour nous. Et il vit également en nous, par son esprit. Il s'occupe de nous. Et ça, c'est important. Si vous adoptez un bébé dans votre famille, mais que vous ne le nourrissez pas, que vous ne vous occupez pas de lui, à quoi bon l'avoir adopté ? Il va mourir. Mais Christ est en chacun des enfants de Dieu, qui ont accepté son sacrifice par la foi. Il vit en nous et il nous nourrit à travers sa parole et sa présence dans notre vie pour notre croissance. Sa résurrection, c'est également notre assurance. Elle est notre espérance que nous aussi, un jour, nous ressusciterons avec lui. Et l'espérance chrétienne, ce n'est pas de croiser les doigts et de se dire intérieurement « Oh, j'espère que ça va arriver », comme si ce n'était pas chose certaine. Non, l'espérance chrétienne, c'est la certitude que ce que nous ne voyons pas encore va arriver. C'est un peu comme si je disais « J'ai l'espérance que demain matin, le soleil va se lever. » La chose n'est pas encore arrivée. Et pourtant, il n'y a aucun doute pour moi que demain matin, le soleil va se lever. Et je vais pouvoir planifier ma journée en fonction du fait qu'il y aura bien un lever du soleil demain matin. Vous aurez sûrement remarqué, du moins pour certains d'entre vous, que lorsque l'apôtre Paul parle du salut, du fait d'être sauvé, parfois il en parle comme quelque chose de futur, quelque chose qui doit arriver et qui arrivera, comme par exemple dans l'épître aux Romains au chapitre 5, au verset 10, où il dit « Si nous avons été réconciliés avec Dieu, passé, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons futurs, à bien plus forte raison, sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. » Et ceci est logique. À la dernière trompette, nous serons sauvés. C'est effectivement quelque chose à venir. Mais dans d'autres passages, Paul parle de ce même salut comme quelque chose qui s'est déjà produit. Comme par exemple dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8, où il dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et j'aime tout particulièrement ces passages qui disent que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés. Car bien que nous ne voyions pas la chose encore, nous pouvons déclarer qu'en Christ, par sa résurrection, notre salut est accompli. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, un des plus beaux chapitres de l'Écriture, l'apôtre Paul dit au verset 24 que « En espérance, vous avez été sauvés ». Il ne dit pas « Nous espérons qu'un jour nous serons sauvés ». Il dit que nous avons été sauvés. La vérité de l'Évangile, c'est aussi notre espérance. Cette certitude qu'un jour nous serons sauvés, qu'un jour nous ressusciterons avec Christ et que nous pouvons vivre dès maintenant comme dans la lumière. Et nous devons attendre ce jour avec persévérance. En tant que chrétiens, nous échouons parfois à nous réjouir de la vérité car nous oublions qu'en espérance, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ, comme le dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter de simplement savoir ces choses-là intellectuellement, mais nous devons les vivre, nous devons vivre cette espérance. Nous devons vivre aujourd'hui comme si nous étions déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est une certitude. Et si nous vivons cette espérance, que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ, qui nous a ressuscités, qu'est-ce qui pourra nous empêcher de nous réjouir de la vérité? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher d'aimer Christ et de marcher sur ses traces? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher d'aimer chaque être humain, même notre ennemi? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher de toujours chercher l'intérêt de l'autre avant notre propre intérêt? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher de pardonner, même quand ce sera très difficile de pardonner? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher, par amour pour Dieu et par amour pour l'autre, de dire la vérité de la bonne nouvelle dans son entièreté et avec joie? Je finis en citant ce verset dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 encore, où Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Paul s'attachait fermement à cette espérance. C'était une réalité objective pour lui, comme si c'était déjà le cas. Et il pouvait vivre sa vie tous les jours dans cette espérance. Voici la vérité de l'Écriture. La vérité que, en Jésus-Christ, nous serons assis dans les cieux, nous qui avons cru. Alors prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, ton Écriture qui ne change pas, qui dit la vérité. Seigneur, nous te remercions pour la justesse de la vérité de la règle. Et nous te remercions que tu nous donnes la force de pouvoir l'annoncer au monde, non pas pour condamner le monde, mais pour guérir le monde. Seigneur, tu nous aimes et tu nous donnes toutes ces règles afin que nous puissions venir à toi, afin que nous puissions faire le constat que de par nos propres forces, nous ne pourrons jamais être trouvés justes devant toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Seigneur, merci pour nous l'avoir donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, nous te remercions pour notre espérance qui est certaine, que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec toi. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner de vivre comme dans la lumière. Seigneur, un jour nous serons avec toi, donne-nous déjà de le vivre maintenant. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur Jésus-Christ. Amen.